Bien, chers amis, bonjour. Nous nous pencherons sur les caractéristiques de la génération de Noé pour les rapprocher des caractéristiques de notre génération. Et ce faisant, nous entrons de plein pied dans notre sujet. Futurologie, prophétie biblique et fin de la civilisation. Nous lirons quelques textes dans le livre de la Genèse au chapitre 6. Et à partir du verset premier, si vous aviez vos Bibles avec vous, vous pourriez suivre la lecture, sinon l'écouter. Genèse chapitre 6. Vous m'entendez bien, vous qui êtes au fond? Merci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. » Et vous savez la suite. Nous tournons quelques pages pour lire cette fois dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24e. Nous lirons des versets 6 à 39. Matthieu 24, 6 à 39. Pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait. Qui touche bien sûr au retour du Christ. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En 1929, une expédition archéologique conduite par le professeur Stonis s'est rendu sur le mont Arara, en Arménie. Et après deux années et demie de recherche, Cette expédition archéologique a mis à jour d'importantes pièces de bois assemblées et conservées dans des sédiments marneux. Après avoir remué quelque 35 000 mètres cubes de terre et de pierre, cette même expédition découvrit un assemblage en forme de coquille de vaisseau dans une couche de calcaire dur, toujours sur ce mont Arara. Quelque temps après, un énorme morceau de coque de 5,75 m de hauteur, de bois de couleur verte. Et ces vestiges sont aujourd'hui visibles en Turquie, à Trébizonde. Bien sûr que ces vestiges ne font pas la preuve absolue qu'il s'agit là des restes de l'arche de Noé, mais franchement, un bateau, les restes d'un bateau, à 2870 mètres d'altitude, on peut se gratter la tête et se questionner, très certainement. À peu près à la même époque, une autre expédition archéologique, cette fois conduite par le professeur Woolley, se rend à Ur, en Chaldée, d'où Abraham sortit un jour sur un appel de son Dieu. Et cette expédition archéologique commença par découvrir les restes d'une civilisation dite d'El Obeïde, faite de céramique très fine, dans un premier temps. Poursuivant ses fouilles, cette même expédition fut étonnée, très étonnée, de ne rien trouver, absolument rien, sur une hauteur de 2,50 m, sur une profondeur de 2,50 m, faite essentiellement de sédiments argileux et d'argile pure. Et après ces 2,50 m, où rien n'a été découvert, cette expédition archéologique tomba sur une autre civilisation, toute différente et bien plus ancienne que la première. Ce qui fit dire au professeur Woolley, chef de cette expédition archéologique, dans une revue autrichienne appelée Atmos, « Nous avons découvert les traces indélébiles du déluge biblique. » Alors, je ne sais pas si ce professeur Woolley était chrétien, mais ça a été là son affirmation, parce que la seule explication possible, selon lui, pour comprendre cette couche de 2,50 m d'argile pure et des sédiments argileux, ne pouvait se comprendre précisément que par un apport important, mais très important, d'eau. Et puis, les traditions grecques, hindoues, tibétaines, babyloniennes, parlent du déluge. Il n'y a pas de fumée sans feu. Le docteur Contenot, spécialiste des antiquités orientales au musée du Louvre à Paris, dans un ouvrage qu'il a intitulé « Le déluge babylonien », a écrit ce qui suit. L'existence du déluge était admise dans la chronologie officielle. Les historiens qui ont recueilli la liste des rois mésopotamiens divisaient l'histoire en deux périodes. Avant le déluge, Lam Abuki, et après le déluge, Arki Abuki. et cette division était de notoriété générale. Il ne fait donc aucun doute que cet événement s'est passé. Pourquoi insister sur cet événement? Parce que très souvent, jusque dans nos milieux dits chrétiens, eh bien, cet événement relève parfois de la légende. Certains pensent que cet événement relève du mythe, qu'il ne s'est jamais passé. Alors comment comprendre que le Christ lui-même en ait fait référence? S'il s'était agi d'une légende, comment le Christ lui-même en a-t-il alors parlé? Lui qui était la vérité, et qui l'est encore, heureusement, bien sûr, vous l'avez compris. « Je suis la vérité », a-t-il dit. Alors, il aurait donc fait référence à un mensonge, à une affaire relevant de la légende, du mythe? Absolument pas. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de même à mon jour. Et pourquoi, ce matin, rappelons-nous de la poussière le souvenir de cette triste époque? Précisément parce que cette époque, dans ses caractéristiques, ressemble, j'allais dire, assez curieusement à la nôtre. Et aussi parce que Jésus a dit, ce qui s'est passé de ce temps-là se passera aussi dans la génération qui connaîtra mon retour, mon jour. Voilà pourquoi il est intéressant de se pencher sur ce que furent les caractéristiques de la génération de Noé, avec toute la documentation que nous pouvons avoir sous les yeux et avec cette intelligence des temps qu'il nous faut à tout prix lorsque nous réfléchissons au problème de notre génération. La génération de Noé a été marquée par 6 phénomènes. 6 phénomènes que nous retrouvons aujourd'hui dans nos temps. Premier phénomène, le phénomène démographique. Lorsque les hommes commencèrent de se multiplier sur la surface de la terre, etc. Premier phénomène. Second phénomène, phénomène violence. Troisième phénomène, phénomène sexe. Quatrième phénomène, phénomène matérialiste. Cinquième phénomène, déclin de la spiritualité. Et sixième phénomène, phénomène d'une civilisation brillante. Voilà donc les 6 caractéristiques de la génération de Noé. Et j'allais dire, c'est presque sans commentaire, je devrais tout fermer et me réasseoir. Hein? Vous êtes d'accord? Ce que j'aurais envie de faire, pour finir. Parce que c'est tellement évident, c'est tellement clair. Et le chiffre 6 phénomènes, est précisément le chiffre de l'homme qui n'atteint pas la perfection, tandis que le chiffre 7 dans l'Écriture est le chiffre de la perfection. Nous ne nous pencherons pas sur tous ces phénomènes parce qu'il nous faudrait énormément de temps et on m'a demandé de vous libérer vers 11h10, hein, c'est ça, ou 11h15. Alors, je ne veux pas quand même vous faire avaler toute une couleuvre. Nous allons donc nous pencher sur quelques-uns de ces phénomènes. Mais comme nous traiterons ensuite de la génération de Sodome, de Gomorre, nous toucherons à de mêmes phénomènes, j'allais dire, peut-être plus soulignés pour certains dans la génération de Sodome que dans celle de la génération de Noé. Premier phénomène, explosion démographique. Alors, cette explosion démographique a été bien sûr voulue de Dieu, puisque le Seigneur a dit à Adam et Ève, « Croissez, multipliez, remplissez la terre. » C'est clair. Seulement, dans cette explosion démographique des premiers jours, des premiers temps, on s'était en quelque sorte orienté différemment, en se rassemblant pour former des concentrations, des villes. Et ce faisant, les villes ont engendré toutes sortes de phénomènes comme elles le font encore de nos jours. Vous savez, ces agglomérations d'hommes, de femmes, ces concentrations ont toujours posé de sérieux problèmes à notre société, à notre humanité. Et je ne pense pas que Dieu ait voulu une explosion démographique dans ce sens-là. J'habite une région, la région parisienne, où existe, à l'heure qu'il est, et dont je fais partie, où existe plus de 10 200 000 habitants. Un cinquième de toute la population de la France se retrouve dans cette région parisienne, avec tous les problèmes que ça peut comporter. Secondement, phénomène violent. Dieu regarda la terre et la vie pleine de violence. Toute chair avait corrompu sa voix devant Dieu. Cette violence était arrivée à un point qu'on l'a chantée, cette violence. Et si vous pouvez lire, par exemple, au chapitre 4 de la Genèse et au verset 23, un certain Lémèque chantant la violence, comme de nos jours nous la chantons. Lémèque dit à ses femmes, « Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femme de Lémèque, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémèque 77 fois. » Il chante le meurtre, la violence, le sang. Il s'en glorifie, il a tué un homme, il en est heureux. Un jeune homme, il en est satisfait. Le sexe. Je passe rapidement sur ses caractéristiques, puis nous reviendrons sur celles qui réellement ont marqué la génération de Noé. Sexe. Où voyez-vous, Alain Chouaquier, un phénomène sexe du temps de cette génération ? Eh bien, dans cette expression, lorsque les fils de Dieu allèrent vers les filles des hommes. On a inventé là toutes sortes de choses. Hein. Certains même ont vu des extraterrestres venus jusqu'à nous pour se mêler à notre race. J'en ai connu qui interprètent ces textes de la manière suivante. Mais qui sont ces fils de Dieu ? Évidemment, on peut être troublé parce qu'il se fait dans la Bible que les anges, les esprits, etc., soient appelés fils de Dieu. Hein ? En Job, nous avons cela, et encore dans d'autres textes, lorsque les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel, et avec Satan aussi, lui-même, qui revenait d'un tour qu'il avait fait par toute la terre. Qui sont ces fils de Dieu ? Alors, à force, évidemment, de creuser la Bible, on en arrive à l'interprétation suivante qui semble, j'allais dire, tenir debout un peu mieux que toutes ces autres interprétations, j'allais dire, abracadabran. Qu'est-ce qui me fait, par exemple, penser, alors je suis très respectueux de ce qu'on peut aussi penser par ailleurs. Et je ne dis pas que ma façon de voir les choses est la seule façon. Absolument pas. Mais qu'est-ce qui me fait dire qu'il ne s'agit pas d'esprit ni d'ange, ni d'autre chose? C'est un texte en Matthieu 22, 30, qui, venant de Jésus lui-même, qui laisse entendre que les anges n'ont pas de sexe. Que les anges n'ont pas de sexe. Alors, les voir se mêler, même s'ils sont des anges déchus, aux filles des hommes, c'est difficile à avaler et à comprendre. Alors, qui sont-ils, ces fils de Dieu? Eh bien, il y a dans l'Écriture pas mal de textes pour nous replacer sur orbite. Et quand nous paraissons quelque peu déboussolés, si nous lisons par exemple en Romains chapitre 8 et au verset 14, par exemple, nous avons ce texte, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous lisons encore dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2 ou 3, j'ai un problème de lunettes qu'il faudrait que je change, Galates 3, 26, oh, il y a tant de choses que j'aimerais faire et que je n'arrive pas. Je n'ai pas le temps d'aller chez le dentiste, je n'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur, je n'ai pas le temps d'aller voir l'oculiste. Priez que Dieu me donne ces quelques jours pour que je puisse vraiment mettre tout cela à jour, parce que je ne peux pas continuer avec une carie, je ne peux pas... Mais enfin, Dieu sait toutes ces choses. Eh bien, en Galates, il est écrit « Vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Et dans l'Ancien Testament, il est arrivé que Dieu ait appelé son peuple ses fils. Je vous donne quelques versets, Exode 4, 22, « Israël est mon fils, laisse aller mon fils hors d'Égypte », n'est-ce pas ? Deutéronome 14, 1, « Vous êtes les fils de l'Éternel, votre Dieu ». Ésaïe 43, 6, « Fais venir mes fils des pays lointains », etc. Nous avons donc une argumentation assez solide pour voir que ces fils de Dieu étaient tout simplement ceux et celles faisant partie de la lignée fidèle. En effet, sitôt après Adam et Ève, nous sommes en présence, au niveau du livre de la Genèse, au chapitre 4, de deux lignées, de deux postérités bien distinctes, avec chacune pour point de départ un verset que je vais maintenant vous donner. Pour ce qui est de la génération de Caïn, le départ de sa postérité se situe en Genèse, chapitre 4, verset 16, verset qui dit « Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans une terre de Nod à l'Orient d'Éden. » Et suite à cela, Caïn eut toute une postérité allant du verset 18 jusqu'au verset 24e, jusqu'à ce fameux Lémec qui chante sa violence et son crime. Postérité infidèle, avec des hommes saillants, tels que Enoch, mais qui n'a rien à faire avec le Enoch que nous verrons dans quelques instants. Caïn pour commencer, Enoch, Tubal-Caïn, Lémec, etc. Et dans cette postérité, il y a une certaine intelligence. Il y a des personnalités comme Lémec, comme Tubal-Caïn, inventeur du fer forgé, semble-t-il, des armes, etc. Et une autre postérité qui commence avec Seth que Dieu a donné à Adam et Ève pour remplacer Abel qui avait été assassiné par son frère Caïn. Et cette autre postérité a pour point de départ le verset 26e de ce même chapitre 4. Seth eut aussi un fils. Ou même chapitre 25, verset 25, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Voyez la différence entre Caïn, qui s'éloigna de la face de l'Éternel pour habiter une terre d'exil, et Seth, qui se met à invoquer le nom de l'Éternel, son Dieu. À partir de ces deux hommes, eh bien, il y eut deux postérités, l'une infidèle avec Caïn, et l'autre fidèle avec Seth. Et c'est cette lignée fidèle issue de Seth qu'on pourrait précisément voir comme ses fils de Dieu. Et en effet, dans cette lignée fidèle, il y eut de ces hommes remarquables, d'abord Seth, puis ensuite Enoch, lequel marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit, l'enleva littéralement. Il y eut des hommes comme Methuselah, comme Lémec, père de Noé, qui n'a rien à faire avec l'autre Lémec. On se passait les noms de ce temps-là, bien sûr. Lémec qui a chanté son crime, et puis Noé lui-même. Mais alors il est dit justement de cette descendance de Seth qu'elle eut des fils et des filles, des fils et des filles, des fils et des filles. Mais c'est dit cela, je ne sais pas combien de fois, nous pourrions même en faire le calcul. C'est une lignée qui a littéralement explosé, qui s'est multipliée. Alors une question, mais une question qui nous fait froid dans le dos. Où sont-ils passés tout cela au jour du déluge? Puisqu'il est dit que seul Noé, sa femme, ses trois fils et leurs femmes ont été sauvés. Alors que il en était venu au monde, des fils et des filles. Relisez ces textes, vous verrez. On se pose une question, mais où cette postérité de Seth est-elle passée au jour du déluge, puisque seul Noé et puis les siens directs ont été sauvés? Alors regardez un tout petit peu, par exemple, au verset 4, « Les jours d'Adam d'après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles, tous les jours d'Adam, etc. Seth, âgé de 150 ans, engendra Enoch, etc. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Et il engendra des fils et des filles, etc. Verset 9, la même chose. 10, il engendra des fils et des filles. Verset 13, il engendra des fils et des filles. Mais c'est incroyable. Une multiplication fantastique. Mais où sont-ils passés tout cela? Ces gens de la lignée fidèle, il me semble tout simplement qu'à un certain moment, il y eut, j'allais dire, rapprochement et mélange au niveau de ces deux postérités. Que les fils de Dieu, c'est-à-dire la lignée de Seth, s'étaient rapprochés de la lignée de Caïn. Elle est passée, elle aussi, sous les eaux du déluge. Et c'est d'autant plus vrai que Jésus dit, dans les textes annonçant les temps de la fin, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre quand il reviendra? Ça nous fait peur aussi. Alors certains nous annoncent un grand réveil universel sur la surface de la terre. Moi, je veux bien, et je prie dans ce sens, je puis vous le dire. Parce que c'est ça qu'on veut. Mais quand je lis que la charité du plus grand nombre se refroidira, quand on lit le Fils de Dieu trouvera-t-il la foi sur la terre quand il viendra? Moi, je vois autre chose. Je vois des choses extrêmement pénibles qui nous viennent. Ceci ne veut pas dire que même sous terre, de manière clandestine, nous n'allons pas vivre notre foi de toutes nos forces. Attention. Et hier, on me posait la question, après la réunion du soir, « Monsieur Choix, qui êtes-vous de ceux qui pense que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation, pendant la grande tribulation ou après la grande tribulation? » Mais vous savez que cette tribulation, certains pays la connaissent déjà. Et je puis vous dire qu'alors, en Russie ou en Chine, mais ces chrétiens pensent déjà être entrés dans des temps de tribulation. Il faut habiter cette partie qu'il est convenu d'appeler l'Occident pour penser comme on pense. Et puis dans ces régions-là, dans ces pays-là, croyez qu'on ne se dispute pas comme on se dispute très souvent au niveau de nos façons de voir. Absolument pas. Vous savez que dans ces pays-là, qu'on soit chrétien sous telle ou telle étiquette, ça n'a plus aucune importance. On se serre les coudes. On vit sa foi souvent clandestinement, sans spectacle aucun. On ne peut pas, hein. On ne peut pas. Alors, moi je crois qu'il nous faut simplement dire que ton règne vienne, quoi qu'il arrive. Mais moi je ne vois pas un réveil universel sur la surface de la terre. Je vois certes que Dieu soutiendra les siens de manière particulière. N'est-ce pas que sa main vraiment sera sur les siens et que réellement, dans ces temps de tribulation, la grande épreuve manifestera ce qui est la foi de chacun, la relation personnelle de chacun avec son Dieu. Alors ça, j'en suis convaincu, et nous aurons énormément de surprises. Ça, je puis vous le dire. Comme ces gens dans les pays de l'Est ont eu pas mal de surprises. On m'a raconté dernièrement, en Suisse, tenez, il y a quelques jours, au cours d'une conférence missionnaire au Diableret, on m'a raconté l'événement suivant qui s'est passé dans un pays de l'Est, à la périphérie de la Russie, dans une réunion clandestine, sous terre, sont entrés comme ça, brutalement, deux policiers, avec leurs armes. En disant tous debout. Pourquoi êtes-vous ici réunis? Qui vous en a donné l'autorisation? Mais alors, authentique, c'est quelqu'un qui revenait de ces pays, qui nous a raconté cet événement au niveau de l'église clandestine. Les chrétiens n'ont rien dit, n'ont rien répondu. Emportez-nous, emmenez-nous si vous voulez. C'est tout. Alors ces deux policiers te diraient bien que tous ceux qui ne sont pas prêts à mourir pour Christ franchissent la porte et s'en aillent. Et les chrétiens ont été surpris d'en voir plus de la moitié quitter l'auditoire. Et un petit nombre est resté là, prêt à être massacré. Et quand ces chrétiens, que nous ne voulons pas juger parce que nous ne savons pas ce que serait notre réaction, quand ces chrétiens qui n'avaient pas voulu laisser couler leur sang ont franchi la porte, les deux policiers ont déposé leurs armes et ont dit « Frère, nous sommes chrétiens et nous voulions simplement voir de quoi était fait votre église. Et nous sommes près de vous, mais nous voulions débarrasser notre église de ceux et celles qui ne sont pas prêts au martyre pour Christ. Nous nous excusons des grandes émotions que nous vous avons données, mais nous sommes vos frères. » Hein, quand on passe par là, il faut une foi, j'allais dire, en acier. Hein. Alors, n'essayons pas de savoir si nous connaîtrons ou pas la grande tribulation. Veillons et prions, dit Jésus, pour avoir la force de tenir dans ces moments-là. Voilà donc la réponse. Les fils de Dieu, à mon avis, avaient été séduits par les filles des hommes. Et ces filles des hommes, puisqu'il est question d'elles, ont dû représenter une vraie tentation pour les fils de Dieu. Et vous croyez qu'aujourd'hui, les filles des hommes dans notre siècle ne représente pas une réelle tentation, mais aller à bien, tout à côté. Et puis regardez un peu ce qu'on étale dans les kiosques à journaux. Regardez à Paris. Et un jour, je m'en suis pris à un vendeur de ces journaux, à la gare Saint-Lazare, à Paris, pour lui dire, mais qu'est-ce qui vous fait comme ça étaler ce genre de choses à la vue de tous, et même à la vue d'enfants qui passent devant. Et cet homme de me dire, mais écoutez, il n'y a que ça qui se vend aujourd'hui. Si j'enlevais ce rayonnage, mais je ne tournerais plus, je ne pourrais plus vivre. Eh bien, certainement que l'explosion d'immoralité sexuelle au niveau de la première lignée avec Caïn avait été une séduction, un attrait aux fils de Dieu qui, précisément, sont allés se mêler, se mélanger avec cette lignée infidèle. Et pour finir, il n'était resté que Noé. C'est comme ça qu'on peut expliquer que les descendants de cette postérité ne furent pas eux aussi sauvés du déluge. Alors ça nous fait frémir. Ça nous fait réellement frémir. Donc explosion d'immoralité sexuelle exprimée dans ces filles de Dieu qui furent réellement une terrible tentation pour les fils des hommes. Mais c'est sur le phénomène violence que j'aimerais m'arrêter quelques instants, parce que le phénomène de corruption sexuelle, nous le verrons davantage dans la génération de Sodome et de Gomorre. Mais c'est sur le phénomène violence. Eh bien, aujourd'hui, la violence est dans le monde, et nous baignons littéralement dans un climat de violence. La violence s'est introduite partout. Elle s'est introduite dans les foyers. Dans les foyers. J'ai été surpris à la lecture d'un document qu'on m'a remis ici en Suisse et qui date du 20 octobre 78, donc tout récent, et qui dit « Au Japon, des enfants battent leurs parents ». Alors j'ai été surpris, je me suis dit « Mais quand même !» Et j'ai voulu lire cet article. Et dans une famille, la famille Takeshi Miyamoto, un lycéen de 16 ans était pour ses voisins un garçon tranquille et souriant. Mais à la maison, il avait coutume de rouer quotidiennement ses pères et mères. Dans des cris inexpliqués de rage et de violence. Une nuit, son père, à bout de patience, l'a étranglé dans son lit. C'est terrible, c'est affreux. Évidemment, ceci manifeste aussi la grande crise d'autorité par laquelle nous passons. On ne veut plus personne sur soi. Hein. Ça, c'est un phénomène que nous verrons dans la génération de Sodome et de Gomorre. Les psychologues et les travailleurs sociaux qui se sont penchés sur ce problème nouveau sont encore incapables de l'expliquer. Et un peu plus loin, récemment, une femme de 37 ans a perdu un œil, crevé par le doigt de son fils de 14 ans, en proie à un excès de rage. Un homme de 45 ans qui essayait de protéger sa femme des coups de leur fils est tombé dans l'escalier et s'est brisé 5 côtes. Une jeune femme a reçu de son fils de 16 ans un coup de poing dans la bouche sous le prétexte futile qu'elle avait soufflé sur son assiette. Mais c'est presque incroyable. Alors, au Japon, en ce moment, on est très inquiet de ce phénomène violence au niveau de ceux qui ont 13, 14 et 15 ans. Parce que jusqu'à présent, on s'inquiétait de ce phénomène, j'allais dire à plus haut niveau, au niveau de jeunes de 18, 19, 20, 25 ans. Mais voilà que les jeunes maintenant, les enfants, sont comme agités par une sorte de rage. Il faut dire que ces enfants baignent eux-mêmes dans un climat de violence que nous-mêmes leur avons préparé. Regardez à la télévision. Bien, vous êtes toujours là en face de films qui violents, de films qui font que précisément la violence nous pénètre, qu'elle fait de nous des hommes de plus en plus violents. J'ai su dernièrement par un journal sérieux en France qui s'appelle Le Point, et que vous recevez sûrement ici aussi en Suisse, Le Point qui nous a fait savoir, dans un article qu'il a intitulé « La carte de la France de la peur », plutôt « La carte de la peur de la France ». Eh bien, Le Point nous a fait savoir qu'en 1976, il y a donc 2 ans, il s'est commis en France seulement 1 763 372 crimes et délits. Alors, on ne nous a pas tout dit. On ne nous a sûrement pas tout dit. Tout près de chez vous, hein. Ça pourrait vous faire peur, mais je suis persuadé qu'en Suisse aussi, vous connaissez déjà un phénomène violence, en tout cas dans vos grandes agglomérations. 1 763 000 crimes et délits. Oui, la violence s'est introduite dans nos foyers. Elle s'est introduite dans nos usines. Vous avez vu qu'en France, de plus en plus, et en mai 68, les ouvriers, les employés avaient occupé leurs usines. Eh bien, la violence est aussi introduite dans les lycées, les collèges, les universités. Elle s'est même introduite dans la religion. Et il y a peu de temps, à Paris, au sortir d'une messe, on s'est battu à coups de parapluie au Sacré-Cœur, hein. Vous connaissez Montmartre, hein, au Sacré-Cœur, cette magnifique cathédrale qui domine Paris, hein. Eh bien, au sortir d'une messe, on s'est battu à coups de parapluie entre catholiques libéraux et catholiques intégristes. Monseigneur Lefebvre. Alors, la violence s'est introduite jusque-là. Et dans l'Église réformée. Alors là, ne voyez pas une attaque à l'Église nationale, pas du tout. Mais en France, un certain Casalis, pour ne pas le nommer, directeur de la commission d'évangélisation de l'Église réformée de France, au jour de mai 68, sur les barricades, s'est écrié, et ça c'est absolument vrai et authentique, « Nous connaissons une nouvelle Pentecôte ». Pentecôte ? Pentecôte sur les barricades ? En renversant le général de Gaulle ? Et en se mettant du côté de la gauche, et un jour, dans un article qui a fait sensation, émanant de l'Église réformée de France, article qui s'est intitulé, et dont j'ai quelques extraits à la maison, « Église et pouvoir », des pasteurs réformés en France ont pris position pour la gauche, pour Georges Marché, pour le Parti communiste et le socialisme, disant « Être chrétien aujourd'hui dans le vrai sens du terme, c'est aller dans la rue », pour s'opposer au pouvoir en face, dont les principes sont contraires à ceux de l'Évangile. Mais oui, jusque dans la religion, la violence s'est glissée. Et puis la presse, le cinéma, la radio, les télévisions, les bandes dessinées, tout cela nous font froid dans le dos et nous vont baigner dans ce climat de violence qui précisément ressemble à cette violence qui existait du temps de Noé. Dieu regarda la terre et voici, elle était pleine de violence. Quand il la regarde de nos jours, cette terre, et cette violence, nous n'arrivons pas à l'expliquer. Cette rage qui saisit ces enfants de 13, 14 ans, 15 ans, nos psychologues n'arrivent pas à l'expliquer. Mais quand on pense que ces enfants sont bien sûr la génération qui monte, qui vient, après la nôtre, ce sera celle qui va peupler cette terre, cette génération qui monte sans Dieu, sans Christ. Parce qu'évidemment, le matérialisme auquel nous viendrons dans quelques instants, avait entraîné un déclin de la spiritualité et de la foi. Et ceci me fait penser alors à ce qu'a dit Giscard d'Estaing il y a peu de temps. Dans ce discours qu'il a prononcé à Auschwitz, de dire « Qui peut nous assurer aujourd'hui, même ici à Auschwitz, que l'horreur n'est pas encore à venir ?» Et Giscard d'Estaing de poursuivre encore. Et qui peut nous dire comment seraient nos campagnes brûlées et le squelette métallique de nos villes? Quel serait le sort de milliers d'êtres humains terrés comme des rats et gangrénés de radiations atomiques si la foudre nucléaire s'abattait sur notre monde? Qui peut nous assurer, même ici aujourd'hui, que l'horreur n'est pas encore à venir? Et dans la suite de ce message, Giscard d'Estaing a dit encore « La jeunesse est tentée par la violence. Elle y voit un instrument de libération et de progrès. Et il est vrai que la violence est une force et qu'on peut tenter de l'employer. » Mais c'est aussi un germe de corruption qui atteint celui qui l'utilise et qui dégrade l'objectif qu'elle prétend atteindre. Il ne peut pas y avoir de monde de la violence parce qu'il suffit d'écouter ici le cri, un seul, de ceux qu'a poussé un homme où il n'avait plus qu'un mètre à parcourir avant d'entrer dans la chambre morte. Pour être détourné à jamais de chercher dans la violence la moindre étincelle de lumière et de justice. On bénit Dieu pour de telles paroles, parce que vous en avez qui prônent la violence, comme ce certain Mao Tse-tung, qui est mort, mais qui un jour a parlé de la race blanche comme d'une race égoïste, comme si les jaunes... ne l'étaient pas eux aussi, hein ? Il est vrai que la race blanche est égoïste et qu'elle a peut-être manifesté un peu trop d'égoïsme à certaines époques, surtout dans ces périodes de colonisation. Ou alors l'Occident a dominé le monde pour ensuite connaître un revers de médaille absolument terrible. Mais il n'empêche que en Chine, on est aussi égoïste parce que l'égoïsme ne tient pas de la race, mais de la nature de l'homme. C'est Chou Enlai, le bras droit pendant un temps, de Mao, qui a dit « Les gens de couleur, les jaunes, les rouges, les noirs, dépassent les blancs dans la proportion de 12 pour 1. C'est-à-dire que quand on trouve un blanc sur cette terre, eh bien, il y en a 12 qui sont d'une autre couleur de peau. Eh bien, puisque nous dépassons les blancs dans la proportion de 12 pour 1, balayons-les. Chou Enlai a dit ça. Et Robert Marcuse a dit: on ne peut renoncer à la violence pour arriver à une société plus humaine. Mais ceci, on l'entend de plus en plus aujourd'hui. Il nous faut absolument être violent, jusqu'en Suisse, hein. Alors hier, j'ai dit qu'ils étaient fous, ces Français. Mais les Suisses en prennent le chemin, hein. Quand on a su, par exemple, toutes vos histoires au niveau d'un certain canton, là, par ici ou par là-bas. Alors moi, je ne prends pas de position dans ces choses, mais on a entendu parler de violence. Et un jour que je tenais une série à cours dans la halle de gymnastique, on a entendu des pétards au dehors, des gens qui manifestaient dans ce petit village paisible de cours. Vous savez, la violence est partout maintenant. Elle s'insinue absolument partout et elle est le présage d'une catastrophe absolument universelle et terrible. En parlant de cette violence des hommes, même sans la foi, ont vu en elle le présage d'une catastrophe à venir, parce que on n'est pas violent sans que cela nous revienne irrésistiblement sur la face comme un boomerang. D'ailleurs, Jésus l'a dit à la fin de l'évangile selon Matthieu. Celui qui tire l'épée sera tué par l'épée. Boomerang. L'homme violent subira cette violence. Et nous sommes en train de marcher vers précisément un suicide collectif à cause de ces racines de violence qui sont en nous. Nous n'arrivons pas à extirper, et que ni nos progrès sur le plan technologique électronique, que ni la philosophie ne peuvent contenir. Mais ça explose, et ça explose au grand jour. Et ça explose partout. Nous ne savons plus maintenant vraiment où regarder et comment résoudre le problème. Nos savants, nos psychologues, je le répète, sont dépassés par le phénomène. Que nous faudrait-il pour arriver au bout, ou plutôt à bout, de cette violence? Alors là, presque tous sont unanimes. Une main de fer. Et cette main de fer, mes amis, nous sommes en train de crier après elle. Antichrist. Tout à fait. Il n'y a que l'Antichrist qui puisse aujourd'hui arriver à bout de ce phénomène. Violence. Et où que j'aille, sous tous les cieux où le Seigneur m'envoie pour l'annonce de son évangile, je vous ai dit que je rentre du Canada, j'étais il y a peu de temps aux Antilles, il y a quelques mois, je suis couramment en France, en Suisse, en Belgique, en Afrique, eh bien je puis vous dire que partout où je passe, il me semble que les générations, la génération actuelle, qu'elle soit jaune, blanche, rouge ou noire de peau, est dans l'attente de cette main de fer. Qui est-ce qui a lu le fameux livre d'un journaliste écrivain français qui est, à l'heure qu'il est, directeur du journal L'Express? Son nom m'échappe tout de suite, mais ça pourrait revenir au cours de la prédication. Auteur du livre « La tentation totalitaire ». Quelqu'un l'a-t-il lu? Oh, mais lisez ce livre, il est récent. Achetez-le en librairie. Ce journaliste dit, comment expliquer que de nos jours, les peuples, les nations passent de plus en plus sous régime totalitaire? Et c'est vrai. Si vous regardez aujourd'hui une carte du monde que nous n'avons pas ici, et si vous faisiez un calcul, à savoir, si ce sont les pays à régime totalitaire qui l'emporte en nombre sur les pays à régime libre, mais ce sont les pays à régime totalitaire qui sont de loin les plus nombreux. Et l'Afrique est en train de basculer. Et Jean-François Revel, merci, voilà, ça vient. Jean-François Revel, qui est maintenant directeur de l'Express en France et qui a écrit ce livre, affirme que c'est l'insécurité grandissante et croissante du fait de cette violence universelle et de cette peur qui s'installe sur le monde qui fait que de plus en plus l'homme aspire à une main de fer sur lui. Ça représente une certaine sécurité qu'il n'a plus. Alors il y a comme un appel. Et puis dans les temps passés, dans les années passées, eh bien, nous avons connu des hommes valables, tels que Churchill, tels que De Gaulle, tels que, etc. Je dirais des hommes d'État qui avaient un profil assez remarquable. Tandis qu'aujourd'hui, où sont nos chefs d'État? Mais où sont-ils? Il y a certes un certain Carter, qui porte le même nom que ces petites pilules. Carter pour le foie. Alors il paraît que ce cher ami Carter, eh bien, essaie de considérer de près la vésicule biliaire des Américains qui souffrent du foie, pour la plupart. Il y a Giscard d'Estaing, puis d'autres chefs d'État encore, mais qui n'ont pas l'envergure, le profil de ces hommes que nous avons eus dans le passé, qui étaient vraiment des hommes saillants, des hommes éminents, assez clairvoyants, je dirais, des hommes qui avaient une autorité incontestable. Aujourd'hui, on ne veut plus de l'autorité. On la rejette. Et nous sommes en train de sombrer, précisément, et dans un marasme, dans un désordre épouvantable, et certainement sans précédent, et dans toute notre histoire. Parce que du temps de Noé, les choses s'étaient passées de façon très localisée. De nos temps, les choses se passent sur un plan mondial, et toutes les fois où Giscard parle, il parle des problèmes mondiaux. Il invente même un terme que nous ne trouvons pas dans notre Larousse, ni dans notre petit Robert. Il parle de la mondialisation des problèmes de l'heure. Comme par exemple, le problème de l'inflation n'est pas un problème inhérent à la France seulement, mais c'est un problème mondial. Tout se situe, tous nos problèmes de l'heure aujourd'hui se présentent de façon universelle. D'où cette aspiration à, j'allais dire, quelqu'un ou à une organisation qui pourrait, par un génie supérieur, apporter des solutions solides et qui vaillent à nos grands problèmes, à nos grandes questions. Aujourd'hui, nous n'y arrivons plus, absolument plus. Oui, donc, le phénomène violence nous conduit tout droit vers une catastrophe universelle. Et ce phénomène violence résulte, à notre sens, du déclin de la foi. Vous savez que la foi décline aujourd'hui. Oh, il y a certes, ici ou là, je n'ai pas le temps pour vous en dire un mot, mais au Canada, par exemple, où, suite à quelques jours d'évangélisation, j'en ai vu des centaines se tourner vers Christ. Je l'ai dit, je crois, à la Chaux-de-Fonds, que les amis baptistes au Canada créent une église par mois maintenant, tellement le souffle est puissant. Que les églises au Canada, au Québec surtout, double, triple, quadruple, et même davantage en une année. C'est fou, les pasteurs sont littéralement dépassés, les frères responsables dans les assemblées, eux aussi. J'ai visité la Grande Maison, c'est une assemblée de frères dans la banlieue de Montréal. En 72, une première fois, il y avait à peu près 12 personnes occultes. Je l'ai visité, cette même assemblée, il y a 2 ans. Il y avait déjà 140 personnes occultes. Et je l'ai visité il y a quelques jours, au Québec. Eh bien, il n'y avait plus de place, alors ils ont dû louer un auditorium en ville. Il y avait là plus de 350 personnes. Mais c'est fou. On voit un phénomène de multiplication extraordinaire. On sent le vent de l'esprit qui souffle dans ces régions. Et qui souffle aussi sur les Antilles. Suite à mon passage aux Antilles, il y a peu de temps, il y a quelques mois, une église m'a écrit me faisant savoir que, suite aux réunions que j'ai eues avec elle, eh bien, ils ont reçu dans leur église, et en même temps, 60 personnes, comme ça, d'un seul coup, ajoutées à leur église, et qui marchent, qui suivent. Hein ? Vous voudrez voir ça à Lausanne, hein ? À Genève, au Pont, à la Brévine, à Chaux-de-Fonds, au Locle. Vous voudrez voir ça un peu partout. En France aussi, on ne le voit pas. Vous savez que quand je rentre de ces régions, j'ai le cœur gros. Mais très gros. Parce qu'en donnant les mêmes messages, ce sont exactement les mêmes que je donne, le message d'Évangile, pour finir. Dans cette région, j'en vois des dizaines avancées. Et puis, dans cette autre région, pas un seul. Ça vous pince le cœur. Hein ? Et il y a de quoi vraiment réfléchir. Oui, donc, nous sommes encouragés ici et là. Mais d'une manière générale, nous assistons à un déclin de la spiritualité. Savez-vous que l'Église d'Angleterre, Church of England, oh là là, on est toujours à combattre avec la montre, hein. J'ai une montre suisse pourtant. La grande précision. Eh bien, en Angleterre, Church of England, qui est l'Église d'Angleterre, c'est une dénomination chrétienne, a perdu en 20 ans 1 million de ses membres et a dû fermer 500 temples. Formidable, ça. Ça nous effraie. Ça, c'est sur un niveau national. J'ai su aussi que les méthodistes de l'Union aux États-Unis, qui représentent là une dénomination très importante, avec le méthodisme est issu d'un certain John Wesley en Angleterre, et qui a lancé cette idée du méthodisme, qui a fait son chemin, et surtout aux États-Unis, où il y a énormément de méthodistes. Eh bien, les méthodistes ont perdu en 1976 540 000 de leurs membres en une année. Alors, voyez un peu comme les choses se passent. Il y a certainement un déclin de la spiritualité face alors à une offensive matérialiste. Du temps de Noé, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Il y a là les indices d'une société de consommation et d'une société de plaisir. La religion du plaisir s'était substituée à la vraie religion. Et puis l'explosion d'abondance, de consommation, les hommes mangeaient et buvaient. Il n'y a rien de mal à cela, hein ? Mais il est un proverbe français qui dit « Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger ». Et il semble que dans cette génération de Noé, on ne vivait plus que pour manger et boire, un peu comme aujourd'hui en France. Vous êtes allé en France, passez vos vacances ? Alors on vous recommande ces restaurants gastronomiques dans lesquels vous entrez à 11h30 et desquels vous sortez à 3h30. Et vous avez commencé par manger des escargots à la provençale, etc., suivi de cuisses de grenouilles. Et nous voilà partis, mais à des repas qui précisément nous préparent à la crise cardiaque, hein, au cholestérol et à ce genre de choses, hein, parce que si dans cette partie du monde, dans une partie du monde, on meurt couramment de ne pas assez manger, dans l'autre partie du monde, en Occident, on meurt aussi mais de trop manger. C'est clair, et c'est VSD, le journal français, là, que vous recevez aussi peut-être ici, en Suisse. VSD, vendredi, samedi, dimanche, c'est un hebdomadaire qui, cette fois, dit aux Français qu'ils meurent parce qu'ils mangent mal et trop. Eh bien oui, dans cette explosion de matérialisme, la foi décline. La spiritualité décline, c'est terrible. Quand l'homme a son assiette remplie, il oublie Dieu, il ne sait plus remercier. Quand son assiette est vide, alors il crie à Dieu. Mais pourquoi ne savons-nous pas dire merci à Dieu pour ce qu'il met dans nos assiettes ? Et mon ami Gaston Racine me disait il y a peu de temps qu'un jour il a lu dans un journal chrétien, soi-disant, qu'on ne peut plus dire merci à Dieu pour ce qu'il nous donne quand on a son réfrigérateur plein. C'est pas la peine de lui dire merci puisque c'est là. Hein, et que ça remplit nos congélateurs et nos... J'espère qu'on ne pense pas ainsi, hein. Et qu'on sait vraiment dire merci à Dieu pour tout ce qu'il donne. Et il semble aussi que ce soit ce phénomène démographique qui ait amené ce phénomène violence. Aujourd'hui aussi, nous connaissons ce genre de choses. Ce phénomène démographique nous surprend, et c'est avec ce phénomène que je vais terminer. Évidemment, du temps de Noé, cette explosion de population était d'une façon très locale, localisée, tandis que de nos jours, le phénomène est encore universel. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'un certain 28 mars 1976, nous avons passé la barre des 4 milliards d'individus. C'est ça, le nombre que nous sommes aujourd'hui sur la Terre, 4 milliards. Mais nos ordinateurs, et nous le verrons tout à l'heure, pas dans cette réunion, mais dans une autre, nos ordinateurs qui travaillent en futurologie, nous disent que vers l'an 2000, même 1990 et quelques, nous aurons certainement déjà atteint les 7 milliards d'individus. Alors l'explosion démographique est vraiment une affaire excessivement sérieuse. Qu'en l'an 2100, si nous sommes toujours sur la Terre, si le Seigneur tardait, les hommes seraient... Nous ne serons plus là, hein, je vous le dis entre parenthèses. Les hommes seraient 20 milliards. 20 milliards. À la cadence actuelle, ce sont donc nos ordinateurs qui nous disent ces choses. Savez-vous combien naît d'enfants à l'heure qu'il est par minute ? 180 bébés par minute. Bébés blancs, bébés noirs, bébés jaunes et bébés rouges. 180 bébés et plus. Vous savez, on ne peut pas dire que 183 quarts ou 181 quarts ou 880 à peu près. Par minute, ce qui donne 3 bébés secondes. Ça va plus vite que chez Citroën. Hein. Ça va plus vite que chez Peugeot, hein, ceux qui viennent du pays de Montbéliard. Ça va plus vite que n'importe, que dans n'importe quelle fabrique. Parce que ces 3 bébés minutes, ces 3 bébés secondes, pardon, font 180 bébés minutes, ce qui donne 1080 bébés à l'heure. En d'autres termes, depuis que nous avons commencé la réunion, il est déjà venu au monde quelques 1080 bébés. Et puis, ce qui donne aussi 259 200 par jour. Là, on a dépassé déjà la ville de Bienne. Bienne fait combien ? 200 000 ? Plus que ça ? Moins ? Oh là, c'est une ville qui me donnait l'impression d'avoir 200 000 habitants. Nous avons déjà dépassé la ville de Bienne chaque jour, et de loin. Ce qui donne aussi 7 776 000 bébés par mois, plus que la Suisse en une année. En un mois, pardon. Mais plus que la Suisse, vous êtes combien en Suisse ? 6 millions ? Bien, chaque mois, il vient au monde une population plus importante que celle de la Suisse. Et de quoi, hein ? Vous comprenez pourquoi nos savants ont vraiment le cauchemar, hein ? Font vraiment des cauchemars, sont inquiets, angoissés. Et pour finir, par année, ces 3 bébés secondes font 93 312 000 par an, c'est-à-dire bien davantage que la population de la France. En une année, venant s'ajouter au nombre que nous sommes, j'allais dire heureusement qu'il en est qui meurt. Évidemment que non, on n'est pas heureux de cela. Mais en comptant ceux qui nous quittent, en les comptant, parce qu'il en vient bien plus. Chaque année, à l'heure qu'il est, s'ajoutent 76 millions de personnes, environ. Alors à cette cadence-là, hein, y a de quoi vraiment trembler. Et quand on pense que 2 personnes sur 3, aujourd'hui, ne mangent pas à leur faim, que la famine fait rage dans ces régions du Sahel, des Indes, dans certains pays arabes et même dans certains pays africains noirs. Nos ordinateurs, toujours en futurologie, annoncent pour 2025 que 170 millions d'enfants de plus, ajoutés au nombre actuel, mourront de faim. Si les tendances actuelles se poursuivent, hein? Et le Club de Rome, qui est l'un des instituts de futurologie des plus en pointe, qui n'a rien à faire avec le Vatican, et qui m'a envoyé pendant un temps le résultat de ses travaux, il s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi. Ce Club de Rome veut absolument, textuellement, l'établissement d'un gouvernement mondial pour le contrôle des naissances et le contrôle des décès. Il suggère la division de ce monde en 10 régions pour que ce contrôle se fasse de façon absolument sûre et certaine au moyen de l'électronique. Alors moi, je me pose la question, quand on contrôle la naissance et la mort, on a contrôlé la vie entière. Hein? Et nous sommes en train de marcher vers ces temps. Ces temps qui seront certainement des temps extrêmement difficiles. Ces temps de matérialisme qui engendreront et qui engendrent déjà un déclin épouvantable de la spiritualité, signe de la décadence morale et de la fin de la civilisation. Oh, on n'est vraiment pas, je ne veux pas jouer les faux prophètes ou les prophètes de malheur, mais Dieu n'a jamais laissé sans les juger ces générations qui l'ont oublié pour verser dans la corruption, dans la violence et dans le mensonge. Ces générations-là sont passées sous de terribles jugements. Et je suis de ceux qui croient qu'à l'heure qu'il est, l'Église devrait vraiment être, j'allais dire, un peu comme ce Jean-Baptiste annonçant qu'il vient et demandant au monde d'aplanir les chemins, les sentiers, d'avertir les peuples qu'ils marchent au-devant d'un cataclysme effroyable. Pourquoi le cacher? Pour sécuriser? Nous sommes au courant de cela. Nous le savons. Et pour nos enfants, nous tremblons, mais nous voulons croire que vraiment, ils sont nos enfants sous la protection du Seigneur et qu'ils connaîtront vraiment le Seigneur un jour et que Dieu leur donnera la force de traverser ces temps difficiles, encore plus difficiles que ceux que nous connaissons en ce moment. Il s'agit donc ce matin de messages d'avertissement. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera à mon jour, dit Jésus. Nous avons tenté un certain rapprochement qui vraiment nous a rendu vigilant, alerte, éveillant. Puissions-nous donc veiller et prier pour avoir la force de tenir le coup dans ces mauvais jours, selon ce que Jésus dit lui-même dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, et dans les textes précédents, ce que nous avons lu. Merci de votre attention.